Dans le prolongement de ce temps de prière et d'adoration que nous venons tout juste de terminer, avant de procéder à cette première session d'enregistrement, permettez-moi d'emprunter au bréviaire l'oraison suivante. Seigneur, tu demandes à ton Église d'être le lieu où l'Évangile est annoncé en contradiction avec l'esprit du monde. Donne à tes enfants que nous sommes assez de foi pour ne pas déserter, mais témoigner de toi devant les hommes en prenant appui sur ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Mes chers amis, dans cette brève introduction, avant qu'ensemble nous prenions connaissance du plan général de ces quatre interpellations fraternelles, je désire vous adresser, dès le point de départ, un triple et sincère remerciement. Grand merci d'abord d'être aussi nombreux à cet important rendez-vous qui marque le début de la phase 2 de cette mission en cours, dite prophétique, pastorale et communautaire, et assumée par les fondations Pax Vobis et Que ton règne vienne. Comme vous le savez déjà, le tout a commencé en 1984. Plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, assistaient même au lancement de la phase 1. Celle-ci, on peut se le rappeler, a débuté en août 84 par la diffusion d'une brochure intitulée « Église, évangélise-toi, toi-même encore davantage ». Et cette brochure, vous vous en souvenez, était accompagnée d'une lettre fraternelle et ouverte adressée aux évêques du Canada. Ces documents ont été suivis de plusieurs enseignements et interpellations adressées sur cassette, certaines aux évêques et archevêques, d'autres aux laïcs, d'autres aux communautés religieuses, puis aux prêtres et aux pasteurs d'âme. La majorité, cependant, ont été adressées à l'ensemble du peuple de Dieu. Cette phase 1 s'est concentrée sur deux années, 1984 et 1985 principalement. Puis nous avons voulu laisser à tous un bon temps d'écoute, de réflexion, de partage, je dirais de digestion et de transformation. Pendant les quatre dernières années depuis 1986, au niveau de nos fondations Pax Vobis et Que ton règne vienne, nous avons voulu porter tout cela dans l'amour, la prière et le jeûne, la foi et l'abandon au Seigneur. Le Seigneur a été bon en nous laissant percevoir par pure gratuité et délicatesse les échos formidables que ces enseignements ont déjà eus et ont de plus en plus, un peu partout, à travers non seulement le pays de l'Est à l'Ouest, mais bien au-delà de nos frontières canadiennes. L'heure est maintenant venue de faire un pas de plus en avant. Tout en soufflant un peu sur le sable qui a pu et dû recouvrir, qu'on le veuille ou non, certains enseignements de la phase 1 depuis août 84, déjà 6 ans, comme ça passe, nous allons maintenant consacrer à nouveau 2 années plus intensivement à la phase 2. 1990 et 91 nous permettront de revenir à la charge, peut-être en des termes encore plus percutants, plus directs cette fois, sur ce même slogan toujours d'actualité, « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage. » Merci également, chers amis, d'être courageux comme vous l'êtes. sachant bel et bien qu'il va s'agir d'une interpellation fraternelle en Église, concernant prioritairement l'Église du Québec, mais non exclusivement, et d'avoir accepté volontiers d'y représenter les quatre groupes concernés par cette série d'enseignements sur cassette, à savoir les fidèles laïcs, les religieux, religieuses, les prêtres et les évêques. Je vous remercie enfin d'avoir gentiment accepté de vous conformer aux règles habituelles de nos enregistrements sonores, en vous abstenant, séance tenante, d'extérioriser vos réactions, quelles qu'elles soient, les gardant précieusement dans votre cœur pour les partager lors des nombreux forums qui suivront. Ces us et coutumes, à l'effet de contenir ces réactions pendant que se poursuivent les séances d'enregistrement sonore, ont pour but de respecter l'entière liberté des auditeurs éventuels de ces cassettes. En effet, des exclamations, des rires ou des applaudissements auraient l'occasion de les conditionner, de les influencer quelque peu, ce que je veux à tout prix éviter. Leur écoute les laisse ainsi libres à 100% d'accueillir ou non, de rire ou non, d'approuver ou pas, et s'ils réécoutent, ce sera toujours la même chose. En terminant cette introduction, je vous demande de prendre connaissance de la feuille qui vous a été distribuée et qui vous donne le schéma général des exposés contenus dans ces quatre interpellations. Et comme vous le savez déjà, ces quatre interpellations forment un ensemble, une continuité. Comme vous en avez le texte, je vais me contenter simplement de lire avec vous les titres des 9 parties de cet ensemble. Dans la première partie, ce sont les qui, que, quoi donc de ces quatre interpellations fraternelles. Deuxième partie, essor ou déclin de notre Église. Troisième partie, la seule solution qui s'impose, un tout nouveau style de pensée, de vie et de comportement en Église. Quatrième partie, les 12 forces négatives qui pressent de plus en plus la courbe vers le déclin. Cinquième partie, les 12 forces positives qui sont déjà là, prêtes à relancer la courbe vers un essor éclatant. Sixième partie, une relance spirituelle de l'Église s'impose, elle est importante, indispensable, inévitable et urgente. Septième partie, comment contribuer personnellement à cette relance spirituelle de et en Église, quelle est la bonne attitude à prendre. Huitième partie, le lendemain et la suite de ces quatre interpellations. Neuvième et dernière partie, 5 inspirations et prospectives prophétiques, puis la conclusion. Comme vous le voyez dans les 3 premières interpellations, on va considérer la situation de l'Église depuis Vatican II, l'Église en général et la nôtre en particulier. On s'arrêtera aux causes et aux conséquences de cette situation. Et on considérera plus en détail 12 facteurs négatifs, 12 facteurs positifs, qui peuvent faire toute la différence entre l'essor et le déclin de notre Église. Puis, dans la quatrième et dernière interpellation, on va voir comment œuvrer sous la mouvance de l'Esprit du Seigneur à la relance spirituelle de l'Église. Quelles en sont les étapes prévisibles, les attitudes à prendre ou à éviter. Une petite précision utile, même si ces quatre interpellations constituent un ensemble, un tout, elles ne sont, malgré leur longueur et leur ampleur, en fait, qu'une table des matières élaborée, aussi étoffée que possible, de tous les vins nouveaux du Seigneur qu'il nous faut découvrir, déguster, intégrer progressivement puis apprendre à proclamer et à conserver, si nous voulons vraiment participer à la relance spirituelle de notre Église et accéder au plus tôt à ce grand et beau printemps ecclésial annoncé depuis quelques années et qui est, comme je l'ai souvent dit et même écrit, dans la brochure Église, évangélise-toi toi-même encore davantage, un printemps ecclésial qui est proche, tout proche, c'est sûr et certain. Dans ces interpellations, je vais aborder une avalanche de sujets. Pensons seulement aux 2 douzaines de forces négatives et positives. Et bien entendu, il me faudrait quelques heures pour vraiment couvrir et approfondir chacun de ces thèmes, de ces 2 douzaines. Mais je vais me limiter à 8 ou 10 minutes dans chaque cas. C'est donc dire que j'aurai tout juste le temps d'effleurer chacun des thèmes. Mais voici comment, après prière et discernement spirituel, il nous a été inspiré de procéder. Les 4 interpellations vont constituer donc ni plus ni moins que la mini-charte de cette grande exhortation à la relance spirituelle de notre Église. On y trouvera donc seulement un énoncé assez général des grandes orientations. Mais ces mêmes interpellations seront à leur tour complétées par 3 séries d'enseignements qui seront mis en circulation progressivement au cours de l'année 90, 91 et début de 92. Il y aura d'abord 10 d'enseignements dits majeurs, enseignements dits majeurs d'accompagnement. En effet, tout au long des interpellations, je m'imposerai de vous les indiquer de façon précise en vous donnant le titre et le numéro de ces enseignements. La plupart de ces enseignements dits majeurs seront mis en circulation dès cet été et cet automne de 1990. On pourra se les procurer auprès du service des éditions Pax Vobis ou auprès des organismes délégués ad hoc, soit en France ou en Belgique. Ensuite, un peu plus tard, nous mettrons en circulation 2e série d'enseignements, d'accompagnements dits mineurs cette fois, en ce sens qu'ils porteront sur des situations pratico-pratiques, suscitées et entretenues plus ou moins consciemment par notre style et comportement actuel en Église. Ces enseignements seront à votre disposition à compter de l'hiver et du printemps prochain, 1990 et 91. Il y en aura également 10. Enfin, le tout sera complété par 3e série d'interpellations fraternelles en Église adressées, cette fois, telles qu'annoncées depuis 2 ans, à des groupes particuliers. Il y aura 2e et 3e interpellation aux prêtres et pasteurs d'âme, 2e et 3e interpellation aux communautés religieuses et 4e aux archevêques et évêques. Ces interpellations venant compléter et prolonger celles qui ont déjà été faites en 84 et 85. Bref, si tout se déroule tel que prévu et souhaité, cette phase 2 complétée devrait mettre à la disposition de mes frères et sœurs qui sincèrement veulent passer d'une Église qui est actuellement plutôt notre bonne œuvre à nous pour le Seigneur, à une Église véritablement l'œuvre du Seigneur, roi et maître à bord. Tout près d'une 60aine d'heures de ressourcement, de réflexion, d'éclairage et d'encouragement seront donc à votre disposition. Ils seront basés sur du vécu bien vécu, prié et discerné et confirmé depuis 15 ans. Alors passons, si vous le voulez bien, maintenant à la première partie. Les qui que quoi donc de ces 4 interpellations fraternelles. Cette première partie, comme l'indique le plan, est subdivisée en quatre sections A, B, C et D. Section A. Des interpellations, c'est quoi au juste? Eh bien, disons que une interpellation fraternelle en Église, c'est tout nouveau. Pas seulement comme expression, mais aussi comme une initiative. Du moins sous sa forme publique. Il n'y a pas de jurisprudence ou d'expérience en la matière. Et on y va donc à nos risques et dépens, aussi prudemment que possible, simplement et courageusement, dans l'amour, la joie et la paix du Seigneur, avec le triple objectif qu'il est toujours bon de retenir, la recherche de sa gloire, du bien de l'Église et du salut des âmes. D'ailleurs, dans une lettre fraternelle adressée aux 30 évêques du Québec le 23 mai 1988 et leur annonçant précisément ces interpellations à venir, je précisais au 5e et 6e paragraphe ce qui suit, et je cite « Messieurs les cardinaux et chers évêques, je n'ai aucune peine à m'imaginer, vous connaissant bien de longue date, que ce style nouveau d'interpellation en Église puisse vous paraître, du moins de prime abord, quelque peu étonnant, voire même déconcertant, surtout pour ceux qui ne m'ont jamais connu jadis. À la vérité, en Église, chez nous, comme ailleurs, on a peu d'expérience et de jurisprudence en cette matière. On a bien en Église des fidèles qui boudent en cachette, des gens qui attaquent avec aigreur et désinvolture, des francs-tireurs ici et là, des dissidents, etc. Et devant tous ces comportements assez courants, on sait normalement et habituellement comment réagir. Mais notre mission aux fondations est d'un tout autre ordre. Elle se fait bel et bien à l'intérieur même de l'Église, dans l'amour des frères et des sœurs et la fidélité à l'Église, et se poursuit dans un climat de paix, de sérénité, même avec un peu d'humour et beaucoup d'espérance. Et c'est ce qui en surprend plusieurs. Certains ont parfois peine à croire que des amis, des alliés de l'intérieur puissent partager ainsi, tout simplement et courageusement, leur mystère joyeux, douloureux et glorieux, sans vraiment chercher des coupables, mais plutôt des causes et des solutions à nos nombreux défis d'aujourd'hui. Fin de la citation. Mes chers amis, à la vérité, je dois avouer que personnellement, même si ces initiatives n'en portaient pas le nom, je n'en suis pas à ma première interpellation fraternelle en Église, soit aux évêques, soit aux prêtres, aux communautés religieuses ou aux laïcs. Et je vous en donne deux exemples parmi quelques douzaines possibles. Premier exemple, dans les années 50, alors que je n'avais que 8 ans de sacerdoce. Dans une lettre écrite le 25 mars 1955 au cardinal Léger et à sa demande, j'invitais l'épiscopat du Québec à voir venir la révolution qui s'en venait au Québec. Et je vous cite quelques extraits de cette lettre. J'ai la conviction que l'Assemblée épiscopale du Québec devrait avoir à son service un secrétariat permanent très bien organisé. Je ne pense pas qu'un évêque, aussi occupé par ailleurs, puisse vraiment remplir cette fonction de façon satisfaisante. Un tel secrétariat devrait grouper autour d'un directeur une bonne équipe de personnes compétentes dans différents domaines spécialisés, théologie, clergé, action apostolique, action sociale, éducation, œuvre sociale, etc. Un tel secrétariat, quelques paragraphes plus loin, devrait aider l'Église, et je cite, à commencer ensuite à prévoir l'avenir et à planifier la situation de l'Église chez nous, car elle est bien précaire. Il ne faudrait pas un grand coup de vent social pour renverser et déraciner bien des choses. L'Assemblée épiscopale du Québec devrait prendre l'initiative de repenser bien des sujets avant même que les catholiques ne se mettent à en douter. En voici quelques exemples. Notre monopole institutionnel actuel sur les hôpitaux, les collèges, les services sociaux va provoquer des chocs à l'extrême opposé si on n'aère pas la situation. La confessionnalité des associations professionnelles, de la CTCC, des institutions mériterait d'être étudiée plus à fond. La pratique religieuse, les gens pratiquent tout en se déchristianisant de plus en plus. L'étalage de nos richesses et de notre pouvoir clérical, qu'il soit recherché ou non, irrite bien du monde. N'attendons pas d'être dépossédés comme dans certains pays pour nous réformer, etc., etc. Comme je serais heureux si les archevêques et les évêques de la province civile de Québec prenaient la tête du peloton dans tous ces domaines avant que la situation ne se gâte. Un secrétariat devrait être à l'œuvre depuis au moins 5 ou 6 ans sur tous ces points. Et c'était 5 ans avant notre Révolution tranquille de 1960. Un deuxième exemple, en 1966, alors que j'étais secrétaire général des évêques, dans un document en 5 volumes, j'ai osé interpeller l'Épiscopat du Canada à se doter d'une conférence beaucoup plus démocratique, beaucoup plus fonctionnel et plus décentralisé, compte tenu de l'ampleur du pays. Cette recommandation, à mon avis, s'imposait de toute évidence, mais aucun des évêques d'alors n'avait osé le faire valoir, car la conférence épiscopale était à cette époque, je ne dirais pas manipulée, car le mot serait péjoratif et trop fort, disons plutôt fermement contrôlé par les 2 cardinaux d'alors. Les réformes nombreuses que j'ai proposées à cet effet dans mon rapport ont été adoptées à l'unanimité, avec 2 seules abstentions, on l'imagine, mais avec enthousiasme et reconnaissance. Pour moi, le bien commun de l'Église et de l'Épiscopat l'exigeait. Et en outre, cette prise de position de ma part ayant été bien priée et discernée, j'étais convaincu que telle était la volonté du Seigneur de le dire tout haut. Ce qui est nouveau cette fois dans les interpellations fraternelles que je fais en Église, c'est que n'étant plus en fonction officielle, au niveau diocésain, provincial ou national, j'ai beaucoup plus de temps disponible pour réfléchir, observer, écouter, consulter, et surtout prier, discerner et partager spirituellement et communautairement, ce qui constitue, vous l'imaginez bien, un double et notable avantage. Et en outre, cette fois, les interpellations fraternelles sont publiques et rendu accessible à tous, alors qu'autrefois, elles étaient plus discrètes, et elles se font maintenant sur cassette, alors que jadis, elles étaient par écrit. J'aimerais faire quelques précisions concernant ce type d'interpellation fraternelle en Église. L'interpellation en Église, surtout sous sa forme proclamée publique, demeure et doit demeurer un recours exceptionnel. On pourrait donner à cela 36 bonnes raisons, dont plusieurs sont déjà évidentes. D'abord, je dirais que du côté de sa préparation, les conditions et les exigences sont telles que personne n'a facilement l'idée ou le goût d'y mettre l'effort et de s'y engager. Et comme je le dis souvent en boutade, la taxe de service et d'amusement est trop élevée. Ensuite, disons que de prime abord, le Seigneur privilégie toujours le recours en direct auprès des personnes concernées. Et ce n'est qu'en dernier ressort, après des essais infructueux et réitérés pour parler directement aux individus et aux groupes, dans leur cœur et leur esprit, que l'Esprit Saint a recours à un messager pour transmettre son vin nouveau sous forme d'interpellation. Toujours avant de procéder ainsi en groupe ou publiquement, l'Esprit Saint tente de se faufiler au travers des corrections fraternelles, des monitions ou des exhortations fraternelles dont il est si souvent question dans l'Évangile, les Épîtres et les Actes des Apôtres. Mais avouons-le, aujourd'hui, ces monitions, corrections ou exhortations fraternelles se font de plus en plus rares, même dans nos milieux ecclésiastiques et religieux, entre évêques, prêtres, religieux, religieuses d'une même communauté, ou laïcs engagés en Église. Dans bien des milieux, la correction fraternelle, la monition fraternelle, hélas, ces avenues de partage et d'entraide sont définitivement closes. C'est le chacun son affaire, le chacun son côté. Il faut donc s'attendre et ne pas trop s'en surprendre à ce que le Seigneur sente le besoin de recourir à un moyen à la fois nouveau et exceptionnel, comme le sont ces interpellations fraternelles en Église. Autre précision importante. Une interpellation n'est pas la même chose qu'une dénonciation. Une dénonciation, très souvent, vise les personnes, souvent les juge dans leurs intentions, et parfois les condamne. Et beaucoup, malheureusement, ont pris cette mauvaise habitude en Église d'écrire aux évêchés pour dénoncer des prêtres, aux maisons-mères pour dénoncer des religieux ou religieuses, ou à Rome pour dénoncer des évêques. Cette manière d'agir est répréhensible et regrettable parce que, d'abord, elle viole les recommandations claires du Seigneur dans Matthieu 15 à 18, où il dit que si ton frère vient pécher, va le trouver seul à seul, puis avec quelques témoins, et seulement enfin, s'il refuse de t'écouter, va à l'autorité au-dessus de cette personne. La dénonciation est regrettable également parce qu'elle provoque ou met en tentation souvent les autorités d'intervenir durement, parfois dans un style sanhédrin, ce qui n'améliore pas la situation. Une interpellation fraternelle, elle, au contraire, elle est directe. Elle ne vient pas par en arrière, dans le dos. Elle s'adresse aux personnes concernées, dès le point de départ et tout au long des échanges suscités. Elle ne cherche pas des coupables, mais uniquement des causes probables et des solutions possibles. Elle est donc plutôt du style exhortation fraternelle. C'est un appel qui est lancé pour que, moyennant la grâce du Seigneur, en partant de ce qu'on est, chacun cherche les moyens d'être encore davantage ce qu'il pourrait ou devrait être. Dans le style interpellation publique, je vous le dis, absolument rien n'est dit publiquement, au vu et au su de tout le monde, qui n'ait d'abord été dit et redit privément et directement aux personnes, aux groupes concernés ou à leurs dirigeants ou représentants. Ainsi, dans les quatre interpellations en question, je vous l'affirme, il n'y a rien qui n'a pas été livré à domicile d'abord, directement aux personnes concernées, et ce à moult reprises depuis 15 ans et plus. Enfin, disons sur ce thème des interpellations, un conseil d'amis, on ne s'improvise pas dans le métier. Cela exige sans faute du recul, des années de réflexion et beaucoup de prières. Et il faut être spirituellement libre, car les pressions et les réactions sont nombreuses et il ne faut être pris en otage par personne. Il faut enfin ne pas avoir d'intérêt personnel ou autre en jeu, comme par exemple un membership à promouvoir, un organisme à faire valoir. Il faut enfin ne pas tenir à ses idées ni retenir les gens. Dans une interpellation fraternelle, on partage. Un point, c'est tout. La suite n'est pas notre département, mais celui du Seigneur. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième section, la section B. À qui s'adressent exactement les présentes interpellations? Mes chers amis, je le déclare sans équivoque, les quatre interpellations que vous écoutez ne s'adressent qu'à ceux et celles qui répondent aux trois conditions suivantes. Premièrement, qui voient la nécessité et l'urgence d'une véritable relance spirituelle en et de l'Église et la désirent de tout leur cœur. Deuxièmement, sont spirituellement prêts à se remettre eux-mêmes en cause, à fond, à se convertir ou reconvertir si nécessaire. Troisièmement, finalement, sont décidés à s'engager concrètement dans cette mission de renouvellement ecclésial et disposés à le faire correctement, en adulte chrétien, plein d'amour et de miséricorde. Voilà, c'est clair, c'est net. Ces interpellations s'adressent à ces personnes-là. Et quand je dis à ces personnes-là, et ces personnes-là exclusivement, à personne d'autre. En aucune manière, ces interpellations ne veulent contrarier, intimider, juger, culpabiliser, bousculer ou confronter qui que ce soit, où que ce soit. Elles veulent tout simplement partager fraternellement avec ceux et celles qui répondent à ces trois conditions, afin que, si cela s'avère utile ou nécessaire, ces personnes soient mieux éclairées, davantage confirmées dans ce qu'elles intuitionnent, pensent, disent ou font déjà, et puissent leur apporter une bonne injection d'encouragement naturel et d'espérance surnaturelle. Et maintenant, on peut se demander où se trouvent et se retrouvent ces gens qui semblent répondre à ces trois conditions. Donc, ces gens capables de voir que l'Église a un besoin de relance, capables de vouloir se laisser transformer et de prêts à devoir s'engager à cette fin. On les retrouve, à mon humble avis, dans cinq catégories de personnes. qui représente au grand total environ 40% seulement des fidèles actuels en Église. Quant aux autres, pour des raisons que je n'ai pas à expliquer ou à évaluer, il semble bien que l'heure ne soit pas encore venue pour eux d'entendre et de comprendre le sens et la portée véritable de ces interpellations. En temps voulu, le Seigneur saura bien les atteindre et les bien disposer à écouter et à accueillir ce qu'il désire inspirer à chacun d'eux. Le premier groupe de destinataires représente environ un bon tiers des dirigeants en poste en Église, institution actuelle. En effet, dans l'ensemble de l'Église, un bon tiers de ses leaders, évêques, pasteurs, supérieurs de communautés, responsables d'organismes ecclésiastiques, se rendent bien compte, de plus en plus, malgré leur grand dévouement et nombreuses activités, qu'un véritable souffle de renouveau spirituel manque encore au bon fonctionnement de l'Église-institution, et que celle-ci, par voie de conséquence, est en perte de vitesse, spirituellement parlant. Quant à notre pays en particulier, ou à quelques autres, je suis peut-être même généreux en parlant d'un tiers. 25% serait peut-être plus exact. Deuxième groupe de destinataires. Un bon tiers, cette fois, des dirigeants et des membres engagés dans l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler le courant du renouveau, à savoir les nombreux et divers mouvements dits de renouveau spirituel, sous toutes ses formes, suscités en Église après Vatican II. En effet, beaucoup de ses frères et sœurs, dans le renouveau, après une heureuse expérience en ces mouvements, cherchent maintenant ailleurs et autrement, et déplorent que ces mouvements dits de renouveau soient demeurés, et souvent malgré eux, hors les murs, et ne se soient pas suffisamment intégrés dans la vie courante institutionnelle de l'Église post-conciliaire, et risquent alors de plafonner. Troisième groupe auquel les interpellations s'adressent, une bonne moitié de nos pratiquants actuels, qui demeurent, même 25 ans après Vatican II, nettement insatisfaits de la situation présente en Église. Malgré toutes les réformes survenues, malgré le zèle et les innovations de leurs bergers et pasteurs, ils demeurent sur leur faim et soif spirituelle en Église. Ils ne reçoivent pas ce dont ils ont besoin et ce à quoi ils auraient pourtant droit de la part du clergé et de l'épiscopat. Leur patience s'impatiente, ils proclament et réclament dans leur cœur au moins une relance spirituelle en Église, sans pour autant pouvoir en préciser les composantes. Quatrième groupe de destinataires de ces interpellations. Même si ceux-ci se retrouvent, à vrai dire, déjà inclus dans les trois groupes précédents que je viens de mentionner, d'une manière ou de l'autre, je tiens à les mettre à part et à les coiffer d'un titre particulier, celui d'orphelin spirituel en Église. Je reviens d'ailleurs plus longuement sur le sujet à propos d'eux dans une cassette d'accompagnement intitulée « La multitude des nouveaux orphelins spirituels en Église », numéro PH2, 17 et 18. Par orphelin spirituel en Église, je veux désigner tous ceux et celles, ici ou là, qui, ayant vraiment senti le Seigneur les appeler directement à l'une ou l'autre mission particulière et nouvelle en Église, après avoir bien prié, discerné et consulté, ont songé à prendre rendez-vous auprès de leur curé, de leur vicaire, de leur évêque ou supérieur, dans l'honnête but de partager cet appel du Seigneur et, au besoin, de se faire discerner, voire même confirmer et encourager. Malheureusement, pour plusieurs, hélas, leur démarche, pour des raisons que je m'abstiens à ce moment-ci d'évaluer, s'est terminée souvent, hélas, en fin de non-recevoir, en incompréhension complète et parfois même en douloureux affrontement. Et ainsi déboutés, plusieurs se sont sentis et se sentent encore de vrais orphelins spirituels en Église institution actuelle. Ces interpellations entendent donc, à leur manière, les conforter quelque peu et raviver, je dirais un gros peu, leur espérance et leur foi en l'avenir de ce printemps ecclésial tout proche. Cinquième et dernier groupe à qui ces interpellations sont destinées, et le fait que je dédie ces interpellations à ce groupe ne manquera sûrement pas d'en interpeller d'autres, c'est le cas de le dire. J'entends également par ces interpellations venir rassurer, éclairer et même confirmer un bon 30% de non-pratiquants et même de gens de d'autres églises ou religions qui ont pour ainsi dire l'oreille collée sur la porte de notre église, écoutent et se disent, car ils en sentent au fond d'eux-mêmes le mystérieux appel, « Ah, si jamais il y a un changement pour vrai et pour de bon, j'y retourne. » Ce sont des gens qui sont prêts à revenir, mais ils ne veulent pas y entrer à nouveau seulement pour des changements de structure, de façon de parler ou d'agir, et par ailleurs, ils ne se sentent pas interpellés non plus par nos divers mouvements dits de renouveau spirituel, qu'ils trouvent beaucoup trop repliés sur eux-mêmes. Et ils attendent, et qui peut les en blâmer, que renaisse vraiment une Église des premiers temps pour les derniers temps. Voilà donc l'auditoire, en quelque sorte limité, auquel ces quatre interpellations fraternelles veulent s'adresser. Et on me fait signe que c'est le temps de tourner la cassette.